40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il est plus qu'important en cette période de confinement et de pandémie à laquelle on fait face d'avoir des raisons de se réjouir. Alors pour ma part, c'est un plaisir de retrouver une fois encore pour cette émission de 40 nuances de Next, Olivier Mathieu, président de The Camp et vice-président de France Digital.
Merci, pour moi c'est un plaisir de reprendre le micro aux côtés de mon ami Thomas Benzazon, cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les OVNIs. Salut Thomas.
Salut Olivier. Alors peut-être avant de présenter notre invité du jour, je rappelle du coup aux éditeurs qui se rendent peut-être déjà compte qu'on respecte le confinement et que nous sommes à distance.
En effet, comme des millions de Français aujourd'hui qui se sont tous mis au télétravail, on s'essaye à une nouvelle idée, le télépodcast.
Donc on espère du coup, éditeurs, que vous nous excuserez si parfois le son perd un petit peu en qualité. On entendra peut-être quelques gazouillis de bébés en arrière-plan ou autres jolis bruits de la vie quotidienne. Et je vais en profiter aussi du coup pour remercier notre partenaire Saouti qui nous permet de réaliser cette émission radio à distance pendant le confinement et sans qui nous n'aurions bien évidemment pas pu donner la parole aux entrepreneurs du fameux palmarès Next 40. Olivier, du coup, peut-être si tu veux bien, on peut peut-être rappeler ce qu'est le Next 40 pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne le connaîtraient pas et de fait les raisons, le pourquoi de cette émission.
Oui, alors le nom de notre émission, c'est 40 nuances de Next, en référence au Next 40. Le Next 40, c'est un regroupement des 40 plus grosses startups, donc ça méritait effectivement un petit rappel de la définition. Le Next 40, ça a été défini comme une référence au CAC 40 qui rassemble les 40 plus grosses cotations boursières françaises sur la place de marché de Paris. Le Next 40, c'est les 40 plus grosses startups, donc peut-être le futur CAC 40 en quelque sorte, d'où l'appellation Next 40. Il s'agissait de rassembler au travers d'un jury sous l'égide du gouvernement et de Bercy, ces 40 plus grosses startups sur des critères objectifs et économiques. Des critères de valorisation, des critères de montant de levée de fonds, des critères de chiffre d'affaires, mais aussi des critères de croissance. Donc il s'agit aujourd'hui de jouer pour nous aussi sur le concept de Next. Le Next 40, ce n'est pas seulement le prochain CAC 40, c'est aussi le nouveau monde, le Next World, comme on dirait en anglais, le monde prochain, celui auquel on est obligé de réfléchir dans cette période de confinement.
Alors du coup, la bonne nouvelle, Olivier, c'est qu'on n'était pas les seuls à avoir envie de porter haut la voix de ces entrepreneurs et à fortiori en cette période.
En effet, merci Thomas de le rappeler. On a déjà pas mal de partenaires sur ce podcast 40 nuances de Next. Des partenaires qui nous ont rejoints, d'autres sont à venir. On va déjà remercier les médias qui nous soutiennent. On peut compter parmi nous à bord La Tribune, Madines, ainsi que l'association France Digital. Ce sont des partenaires grâce à qui nous allons permettre au plus grand nombre de découvrir l'émission, puisqu'ils vont nous aider à la relayer, à la diffuser. Mais ils participent également au contenu éditorial, puisqu'ils vont intervenir tout au gré de l'émission, au fil de la saison, également dans les prochains podcasts, bien entendu. Donc Thomas, je te laisse annoncer notre invité du jour.
Quel honneur. Du coup, avec plaisir, on accueille Julia Bijaoui, cofondatrice et dirigeante de Frishti. Julia, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu es bien avec nous?
Je suis bien avec vous.
Bonjour, je rappelle que tu es particulièrement impliquée d'ailleurs en ce moment.
Exactement, on est au four et au moulin et l'expression est particulièrement adaptée en ce moment.
Ce qu'on te propose avec Olivier, c'est de pitcher de manière un peu différente que ce que tu as l'habitude de faire. C'est le pitch before and after. On aimerait savoir quel était le pitch des débuts et le comparer au pitch d'aujourd'hui quand tu présentes Frishti.
Je crois qu'on peut rappeler peut-être que Frishti a environ 5 ans.
Exactement. Frishti a 5 ans, effectivement. Enfin, aura 5 ans dans 2 mois. Le pitch d'avant et de maintenant, en tout cas la mission d'entreprise, elle n'a jamais changé. C'est essayer de faire en sorte que bien manger devienne facile. Donc comment reconnecter les citadins qui sont parfois assez éloignés des bonnes choses, des bons produits et qui ont des vies très chargées avec le fait de bien manger qui est une aspiration qu'on a tous et qu'on a de plus en plus. Et c'est pas forcément facile parfois de reconnecter sa volonté et son aspiration avec son mode de vie. Donc voilà, rendre le bon possible au quotidien, ça c'est la mission de Frishti et ça n'a pas changé. C'était le cas il y a 5 ans, c'était le cas avant la crise sanitaire et c'est toujours le cas pendant. Par contre, effectivement, ce qui a beaucoup évolué, c'est notre offre et notre manière, la manière de faire s'exprimer cette promesse. Au début, Frishti, c'était du coup des plats fraîchement cuisinés, ultra frais, livrés en, on va dire, 1h30. Voilà, ça c'était à peu près ce que c'était au début. Et puis ça a beaucoup évolué. Et avant la crise sanitaire, ce que c'est Frishti, c'est un service qui, de par la diversité de son offre, peut vous accompagner partout, tout le temps, pour vous aider à bien manger. Partout, tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire le midi en semaine, avec notre offre de plats fraîchement cuisinés, alors qui s'est beaucoup enrichi et qui est maintenant livré plutôt en 20 minutes. Et c'était un axe très fort avant la crise sanitaire, c'était le développement de toute une offre B2B pour créer des cantines virtuelles en permettant aux salariés de passer une pause déj à la fois sereine et de bien manger. Mais c'est aussi Frishti, un supermarché qui vous accompagne du coup jusque chez vous et qui vous permet de faire vos courses et de vous nourrir de produits ultra frais, le plus locaux possible, avec très peu d'intermédiaires. Et pareil, de faire vos courses, voilà, de votre marché, de la manière la plus simple et la plus pratique qui soit, puisque pareil, vous êtes livré en 20 minutes. Finalement, c'est l'expression pleine et entière de cette mission, mais avec un service qui est beaucoup plus diversifié et qui accompagne le client aussi bien en entreprise que chez lui. Et depuis la crise sanitaire, c'est, on va dire, un petit peu la même chose, mais l'équilibre entre la partie supermarché et la partie plat fraîchement cuisiné, c'est complètement inversé. Notre cœur de métier historique, voilà, c'était le plat cuisiné et ça représentait 70% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est notre supermarché qui représente plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc l'équilibre, c'est complètement inversé. Là où notre activité de cantine virtuelle, c'est quasiment arrêté. On continue de nourrir des cellules de crise, des hôpitaux, etc., qui ont besoin encore de cette offre de plats cuisinés. Mais finalement, notre clientèle habituelle, ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est de se faire livrer ses courses. Et donc, on a...
Julia, je me permets ouais, de t'interrompre parce qu'on reparlera un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, merci pour le pitch. Et c'est amusant parce que tu dis que ça n'a pas changé. En général, les entrepreneurs quand même évoluent. Moi, je sais que tu as changé, grandi comme ton entreprise. On a une petite rubrique aussi qu'on voulait te proposer, c'est nous dire comment tu vas en 2 chiffres.
15 sur 20, je ne sais pas si ça fait plutôt 4 chiffres, ou 7 sur 10, ça en fait 2. Comment je vais ? Je vais très bien et je suis très très motivée par tout ce qu'on est en train de construire, que ce soit sur le fait de pivoter, de shifter notre business et de répondre toujours mieux à ce que veulent nos clients, mais aussi, et on en parlera je pense plus tard dans le podcast, de tout ce qu'on entreprend en termes d'initiatives solidaires pour mettre notre service auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Et après, je pense que comme tout le monde, je mets pas 10 sur 10, mais le confinement, je trouve ça compliqué. Surtout que j'ai 2 enfants, un conjoint qui travaille aussi beaucoup puisque c'est mon associé. Et donc, c'est pas tous les jours facile à gérer, il faut s'organiser.
Je rappelle qu'on est tous en confinement, donc effectivement, on a nos enfants, nos adolescents, ou parfois même des conditions de connexion qui sont pas bonnes, mais c'est le jeu aussi de ce podcast. Donc si jamais on entend des cris d'enfants derrière Julia ou derrière Thomas, on sera pas surpris, on trouvera ça plutôt sympathique.
Et on précise que nos enfants ne sont pas battus.
Pas encore.
Du coup, c'est une bonne transition peut-être pour revenir sur cette période particulière qu'on vit tous.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
En tant qu'entrepreneur, comment tu as fait face à l'arrivée du virus? Est-ce que c'est monté progressivement en voyant ce qui arrivait en Chine, en se disant que ça allait arriver en France, ou finalement les grandes décisions que Frichti a prises, ça s'est fait au moment où notre président a décrété le confinement?
Ça s'est fait au moment où le président a décrété la fermeture des restaurants, où le confinement n'était pas encore déclaré. Où là, je pense que toute la population a pris la mesure de ce qui nous attendait et de la gravité de la situation. Et après, on regardait la situation monter, on sentait un certain stress, mais on n'avait pas encore vraiment pris la mesure de ce qui allait se passer. Et puis le jour où le président a annoncé la fermeture des restaurants, déjà on a fait x12 sur les ventes d'alcool. Donc je pense que les gens avaient besoin d'oublier. Et puis on a à partir de ce moment-là également lancé immédiatement ce qu'on appelle la livraison sans contact. Donc notre première pensée a été de mettre en sécurité les personnes qui travaillaient pour nous sur le terrain, que ce soit les préparateurs de commandes, les livreurs. Il y a des centaines de personnes qui s'affairent à rendre le service possible. Et donc, on a absolument transformé toute notre manière d'opérer. Et je vous dis, c'est auprès de plusieurs centaines de personnes et sur une vingtaine de sites différents. Donc, ça a été assez conséquent mettre en place et ça a été vraiment notre premier focus.
Si je dis pas de bêtises, c'était vous les premiers à faire ça?
Oui.
Ce qui est devenu la norme ensuite pour les autres.
Ouais, exactement. L'idée étant de évidemment protéger nos clients en ne les faisant rencontrer personne, mais également et surtout protéger les livreurs qui eux sont amenés à rencontrer plusieurs clients dans une même journée et qui sont encore plus exposés. Protéger aussi nos cuisiniers, les personnes qui préparent les commandes dans nos centres logistiques. Un exemple. Et aussi qu'on a arrêté la livraison express en 20 minutes. On en a fait une livraison plutôt en 60 minutes, ce qui reste une prouesse à Paris de pouvoir livrer aussi rapidement dans ce contexte. Néanmoins, ça nous a permis de ralentir beaucoup notre rythme de préparation de commandes, ce qui permet d'opérer dans des conditions plus sereines et de respecter les normes et les mesures barrières qu'on impose sur les différents sites. Donc, par exemple, toutes les heures, les équipes s'arrêtent, désinfectent pendant un quart d'heure l'intégralité du hub. En cuisine, on a réduit énormément les équipes pour qu'elles puissent, dans la cuisine, respecter la distanciation nécessaire. La conséquence directe, c'est que sur notre site, là où vous pouviez avoir une quarantaine de plats différents chaque jour, vous n'en avez plus qu'une quinzaine, quoi, ou une dizaine. Donc voilà, on a beaucoup adapté les choses avec une première idée en tête, c'était sécuriser nos équipes. Et changer nos process.
Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce que tu dis, Julia, c'est aussi l'aspect, sans tomber dans l'angélisme, l'aspect un peu humain derrière l'entrepreneur et le business. Et donc, je pourrais te poser des questions un tout petit peu plus précises sur comment ça s'est passé chez vous. Nous, on a appelé cette rubrique de manière humoristique confiné, mais pas confi. Et on voit bien que clairement, vous avez réagi très vite, vous n'êtes pas resté bloqué. Et ce qui serait intéressant pour nos auditeurs aussi, c'est d'entendre comment tu t'es adressé aussi en interne à tes équipes. Tu peux nous rappeler combien tu as de collaborateurs et comment tu t'es adressé à eux, quels ont été le discours de mobilisation et de compréhension.
Absolument. Effectivement, donc on a 350 collaborateurs en interne et plusieurs centaines de livreurs qui travaillent chaque jour pour nous et qui font partie de notre écosystème. Une des principales choses, et je pense qu'il se renforce encore plus dans cette période, c'est d'être ultra transparent sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait pas, sur ce qu'on a déjà mis en place, sur ce qu'on va mettre en place, sur là où on a du mal. Par exemple, c'est que on a eu du mal à obtenir des masques. Heureusement, on en a depuis plusieurs jours maintenant, mais ça a été compliqué. Au début, ils étaient réquisitionnés, évidemment, pour le personnel médical. Donc être très très transparent, et en plus on est un peu particulier puisqu'effectivement on a quand même plus de 200 personnes qui continuent à travailler sur le terrain. Faire en sorte qu'il y ait une information qui circule bien. La deuxième chose, c'est se rappeler pourquoi on existe et à quoi sert notre service et pourquoi on doit rester ouvert. Ça a été très très important de se le rappeler parce que c'est vrai que ça porte, on va dire. Une activité de première nécessité, qui permet de nourrir ses clients et peut-être des clients aussi qu'elle n'avait pas l'habitude de servir habituellement. On pourra y revenir, mais on a ouvert une hotline téléphonique pour prendre les commandes des personnes âgées. On a monté un partenariat avec la PHP pour pouvoir leur offrir les repas, leur livrer des courses. Donc finalement, je pense que ce qui nous a tous portés, et c'est le message qu'on a évidemment relayé avec Quentin, c'est à quoi on sert dans cette crise. Et continuer à travailler, oui, mais sans comprendre à quoi on sert, c'est très compliqué. Et donc à la fois, de par la nature de notre activité, qui est de tout simplement livrer des repas, livrer des courses, ce qui aide nos clients habituels à la distanciation sociale et leur rend un vrai service, déjà ça c'est porteur de sens, mais également toutes les initiatives solidaires, on va dire, pour mettre notre service à disposition de ceux qui en avaient le plus besoin, nous ont énormément porté et ont donné encore plus de sens à notre mission d'entreprise.
Et comment les équipes ont réagi entre, d'un côté, la peur, pour certains, j'imagine, et d'autre côté, justement, ce sentiment de faire partie de ces héros qui se mobilisent pour faire face à la crise?
Franchement, les équipes ont réagi de manière assez hallucinante. Donc chez Frissi, on est habitué à avoir un rythme soutenu, mais là, il a fallu pivoter, shifter les process, le business en quelques jours, quelques semaines. On est encore en train de continuer à apprendre à le faire. Et ça, je dirais que c'est un peu comme... Il faut prendre avec des pincettes cette comparaison, mais on s'est senti en tout cas, j'allais dire comme des soldats qui partent à la guerre, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais on s'est tous sentis portés par une adrénaline assez extraordinaire, que ce soit les gens du siège qui travaillaient à changer les process, communiquer, etc., que les gens sur le terrain qu'il a évidemment fallu soutenir, accompagner, où nous on est beaucoup allés sur le terrain Mais voilà, il y a eu vraiment une unité qui s'est faite. Parfois quelques balbutiements au début, et puis très vite une prise de conscience que on était plus important que jamais à la bonne continuité, on va dire. Je me perds dans ma propre phrase.
Ce qu'on essaie, c'est ce que tu racontes, effectivement, c'est hyper hyper positif. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi le sens du podcast 40 nuances de Next. On veut porter des messages constructifs. Oui. Si on essaie d'être aussi dans un discours de vérité, et il n'y a peut-être pas d'autre réponse que ce que de dire. Ouais. Est-ce que toi-même, tu as été surprise, parfois peut-être en bien ou en mal, de certains comportements, soit de tes partenaires, soit de tes collaborateurs, soit des réseaux avec lesquels tu travailles? C'est sans, casser de sucre sur personne, mais on sait qu'il y a aussi des moments difficiles. Est-ce qu'il y a des moments de surprise ou des choses que tu pourrais nous relayer en termes d'anecdotes?
Je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu de la peur, et notamment de nos équipes sur le terrain? Évidemment. Évidemment que quand tu te lèves, que tu vas travailler alors que tout le reste de la France est confiné et que tu entends à la télé des choses assez terrifiantes, bien sûr que tu te poses la question de pourquoi est-ce que toi, tu vas travailler, quoi. On a essayé d'y répondre de la meilleure manière qui soit. Un, en adaptant les process, comme je l'expliquais, en sécurisant les sites, etc. Et deux, en se rappelant pourquoi on reste ouvert et pourquoi on continue et pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est important. Ce qui fait qu'on a pu, surmonter cette peur. Néanmoins, il y a aussi pas mal de personnes qui ont dû s'arrêter de travailler, ce qui représente une certaine difficulté puisqu'il faut les remplacer. Non pas, je pense, portées par la peur, mais portées par des contraintes personnelles, soit parce que ils ressentent des premiers symptômes. Évidemment, on ne prend aucun risque et on leur dit strictement de ne pas venir travailler, ou même pour des questions de garde d'enfants. Donc il y a eu un peu un branle-bas de combat sur le terrain pour essayer d'être ultra à l'écoute, ultra compréhensif des cas individuels, et pour autant de maintenir un sens des responsabilités et un sens de il faut continuer à travailler, on reste ouvert plus que jamais et en plus on se transforme. Pour un langage peut-être plus réaliste, même ce que je disais avant.
Et merci pour ton honnêteté et ta transparence.
Non, mais je t'en prie, on n'a rien évidemment à cacher, et c'est sûr que les gens qui travaillent de manière opérationnelle font un travail extraordinaire de manière générale, mais plus particulièrement en ce moment où c'est quand même quelque chose de prendre sa voiture, de prendre son vélo et d'aller travailler en somme.
Julia, un autre sujet en ce moment pour les entreprises, c'est quand même d'arriver à trouver le ton juste. On a vu des prises de parole parfois assez maladroites, donc on a parlé de l'interne, mais du coup en externe, quelles questions on se pose pour justement être à propos?
Ouais. Je suis d'accord, c'est une très bonne question. C'est un peu un exercice qu'il faut réussir. Je pense que la première bonne manière de faire, c'est d'être transparent avec ses clients, d'expliquer ce qui est mis en place, d'être rassurant. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur différentes choses. Je dirais sur un, tout simplement les process qui visaient à rassurer sur le fait que et nos collaborateurs et leurs commandes et donc du coup les clients seraient en sécurité, mais aussi sur comment est-ce qu'ils pouvaient finalement contribuer eux-mêmes depuis leur confinement et s'associer avec nous sur nos différentes initiatives solidaires. Donc on a beaucoup fait d'appels à participation, appels notamment à contribuer à notre cagnotte qui vise à offrir des repas aux soignants et qui atteint plus de 100 000 euros de dons, à la fois sur notre site, à la fois via la cagnotte Litchi et à la fois via des donateurs institutionnels. Mais donc voilà, nos clients se sont fortement mobilisés. Et parfois des appels, on va dire, qui paraissent plus triviaux, mais qui ont une forte portée. Par exemple, on communique énormément en ce moment sur le fait qu'il faut absolument continuer à manger des produits frais et des produits de saison, notamment en ce moment des fraises et des asperges. Il faut que ce soit des produits français parce que nos producteurs continuent de bosser et qu'ils sont en difficulté parce que parfois ils n'ont plus de débouchés. Rungis, c'est quasiment marche au ralenti. C'était souvent des gens qui faisaient les marchés, qui vendaient à des restaurateurs. Donc comment contribuer? Tout simplement, il n'y a rien de plus facile en achetant des asperges et des fraises. Donc je dirais que c'était un mix de communication factuelle sur qu'est-ce qu'on fait, comment on continue à opérer, quelle est la nouvelle donne et quelles sont les règles que vous devez aussi vous respecter pour nous mettre tous en sécurité. Et puis derrière, une communication vraiment sur comment participer avec nous à avoir un impact positif sur plein de choses différentes et de manière assez simple depuis chez soi.
Tu parlais tout à l'heure de votre accompagnement des personnes âgées. Tu peux développer ?
Oui. On a ouvert une hotline téléphonique pour prendre les commandes ou aider les personnes âgées à passer commande elles-mêmes, c'est au choix. Pareil, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place au tout début, où nos premières pensées se sont tournées vers les personnes âgées, les personnes qui avaient des maladies chroniques et qui étaient du coup particulièrement exposées au risque de sortir. Et donc on s'est dit, on va leur offrir la livraison, ça paraît assez logique, elles ne doivent pas sortir, donc rendons notre service encore plus accessible pour ces personnes. Et puis deux, pour les personnes âgées, qui sont parfois déconnectées numériquement, soit connectées, mais ont du mal avec l'idée de passer des commandes sur Internet, de mettre leur carte bleue, etc. sur un site Internet, on va ouvrir ce service pour pouvoir les accompagner à faire ça. Donc on a eu des centaines d'appels depuis le début du confinement et certaines qu'on appelle régulièrement, avec qui on a un rendez-vous téléphonique tous les 2-3 jours, la fréquence est au choix, et qui sont aussi assez ravis d'avoir des gens au téléphone, comme le facteur qui passe et qui joue un vrai rôle d'accompagnement et de lien social vis-à-vis de ces personnes. Et à notre toute petite échelle, c'est aussi une manière de le faire, en leur apportant les courses, deux, en ayant un lien téléphonique avec elles, ce qui les aide à avoir un lien sur le monde extérieur. Donc c'est une équipe de deux personnes qui fait ça, c'est des gens du service client qui ont l'habitude d'accompagner les clients de manière générale, mais qui là sont dédiés à l'accompagnement des personnes âgées.
Alors moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse pour passer un peu du coq à l'âne. C'est aussi, dans la vie des startups, ce qui est important, c'est aussi la relation à l'argent. Donc, comme on a dit qu'on avait un discours de vérité, nous, ce qui nous intéresse, c'est également de voir finalement quel est le rapport avec tes investisseurs. Est-ce que les investisseurs eux-mêmes changent leur fusil d'épaule, changent de discours? Est-ce qu'ils sont solidaires? Comment se passe la relation avec un conseil d'administration, avec des fonds de capital risque dans le cadre comme ça, où, à un moment donné, où l'économie s'arrête? Les entreprises, comme tu l'as démontré par ton explication, se transforment, et donc ce sont des changements brutaux, et peut-être les investisseurs craignent-ils pour leur investissement, tout simplement.
Ouais, écoute, nous ça s'est super bien passé parce qu'ils nous ont manifesté leur soutien plein et entier, parce que aussi on a pris les devants et qu'on a bien communiqué sur ce qu'on allait faire, ce qu'on allait mettre en place, les choses qu'on découvrait à mesure qu'on avançait. Voilà, on a beaucoup plus communiqué qu'en temps normal avec notre board. Évidemment, on s'est posé la question de leur soutien qui nous ont confirmé de manière immédiate, pleine et entière. Franchement, là-dessus, je dirais pas que c'était surprenant parce que on les avait bien choisis, mais tout de même très rassurant. Et ils ont, au-delà de leur soutien financier, été très élogieux et soutenants aussi sur le fait qu'on reste ouvert, qu'on se batte pour rester ouvert, parce que ça a été quand même une complexité que de le faire, qu'on se batte pour transformer, pivoter et finalement réussir à faire de cette crise soit un non-événement en termes de chiffre d'affaires et de marge, soit en tout cas peut-être même une opportunité, un événement qui nous permettra d'aller encore plus loin. Agréablement, pas surprise, mais en tout cas ils étaient là, quoi. Ils étaient là et ils nous avaient toujours dit que c'était des bons investisseurs, des gens bien, et ils l'ont montré. Évidemment, c'est toujours mieux de le montrer. Et dans ces périodes-là, dans ces périodes de crise qui font peur à tout le monde, c'est facile quand t'es un investisseur de dire moi je suis un good guy. C'est plus compliqué de le faire vraiment quand il y a des périodes de crise, d'incertitude. Ils ont été au rendez-vous, donc je les remercie pour ça. Et après, maintenant il faut qu'on aille. Évidemment qu'on est sur des enjeux financiers importants, on est en train de faire des plans de rationalisation des dépenses.
Est-ce que tu peux nous rappeler l'ensemble de l'argent qui a été levé par Frishti? Ça a été communiqué dans la presse, donc je ne crois pas que ce soit un chiffre confidentiel.
Oui, bien sûr. De lever et d'annoncer 43 millions d'euros.
Voilà, donc on est sur des montants conséquents qui permettent d'investir sur l'avenir. Peut-être Thomas, ça nous permet de passer à la nouvelle rubrique.
Alors, est-ce que tu veux un jingle?
Ah, ça me ferait plaisir, on a travaillé là-dessus. On est des professionnels du podcast maintenant. I have a dream. La rubrique suivante, c'est ce qu'on appelle, nous, le jour d'après, le monde d'après. Le président a dit que le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aujourd'hui? On aimerait se projeter finalement sur l'après-confinement.
Tu veux dire au sens de la société ou au sens de l'entreprise ou des deux?
C'est tout à fait une parole libre qu'on te laisse, mais en fait, on aimerait bien aborder les deux parce que c'est vrai que la vie de ton entreprise, l'évolution de son modèle d'affaires, de son business model, mais également ton regard sur le marché, du coup, le marché de ce qu'on appelle la food tech, donc le marché de l'alimentation avec la vision que tu as décrite qui est apporter du bon dans tous les foyers et dans tous les bureaux. Mais il y a aussi la question de, plus globalement après, peut-être de nos façons de travailler, de nos façons de vivre.
Et qui ont un impact direct en plus sur la nature de notre entreprise. Donc,
chez Frishti, oui.
Ouais, absolument. Effectivement, nous on pense que le monde d'après ressemblera évidemment jamais au monde d'avant, qu'il va y avoir, que le déconfinement va être très long et que la période où on va pouvoir de nouveau se sentir libre, à l'aise d'interagir avec les autres, ses amis, ses collègues, enfin bref, là, en fait, on pense que la distanciation sociale va vraiment durer encore plus longtemps que le confinement. Attendez, excusez-moi. Alma, tu laisses maman tranquille, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pardon, je vais reprendre du coup peut-être le début de ma réponse.
Non, mais nous, on est content d'avoir un peu de vie dans le podcast parce que ça démontre que les nouvelles façons de travailler, le télétravail, mais aussi le télépodcast, sont des moments de famille.
Et peut-être qu'Alma pourrait faire notre prochain jingle, ça marchera peut-être même un peu mieux.
Absolument, elle adore chanter et tu ne seras pas déçue. on pense, que le retour à la normale en termes d'interaction sociale va être très long. Un an et demi, 2 ans, mais ça va être vraiment long, ce qui va faire durablement changer nos comportements d'achat. Ça va évidemment avoir un impact, selon nous, sur la digitalisation des achats, et notamment sur les courses, qui est l'alimentation, qui est encore un des secteurs les moins digitalisés. L'e-commerce alimentaire, avant la crise, c'était 3% des achats du marché des courses. Là, plein de gens découvrent ce service, à la fois des gens qui n'auraient jamais commandé de par leur âge initialement et qui vont y prendre goût et qui vont d'ailleurs être des gens particulièrement touchés par la distanciation sociale, même dans le long terme, et qui vont donc s'habituer à faire comme ça. Et puis des gens qui étaient parfaitement en âge de commander mais qui n'avaient pas encore fait ce switch et qui vont découvrir avec joie la praticité que c'est de se faire livrer. Donc oui, ça va avoir un impact durable, ça va aussi avoir un impact sur la manière de travailler, ce qui est également important pour notre entreprise, puisque comme je vous le disais, un de nos focus pré-crise, c'était le lancement des cantines virtuelles. Donc à très court terme, évidemment, c'est un business qui va être compliqué, voire même à l'arrêt, puisque les gens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le travail, mais ça va être probablement assez long. Mais par contre, à moyen terme, on anticipe là aussi que ce soit une solution qui plaise énormément, parce que le télétravail, selon nous, va beaucoup se développer. Les gens découvrent que c'est possible, les gens découvrent que c'est facile. Ce qui fait que sur site, dans les bureaux, il va probablement y avoir moins de gens à un seul et même moment, ce qui rend l'exploitation des restaurants d'entreprise en dur plus compliquée. Pour installer des cantines réelles et les faire tourner, il faut un flux de clients qui soit important et prévisible. Et bien là, ce flux de clients va devenir moins important, donc il y a plein d'entreprises qui historiquement pouvaient avoir des cantines et ne les auront plus. Et puis plein d'autres entreprises, parce qu'elles n'auront plus le flux nécessaire pour pouvoir les assumer. Donc finalement, même le monde de la restauration collective, selon nous, va beaucoup changer. Et puis il va être question, si le télétravail se développe, que pour les entreprises, d'accompagner leurs salariés avec des solutions de cantine et de restauration également en télétravail. Donc bref, l'un dans l'autre, on anticipe une forte digitalisation de tous les services de food, soit restauration collective ou livraison de courses, qui du coup sont plutôt, on l'espère, prometteurs pour ce qu'on était en train de construire. Et accélérateurs sur des tendances de marché qu'on anticipait de toute façon, mais qui vont a priori beaucoup s'accélérer.
Je m'interroge quand même pas mal sur cette réflexion qu'on a à peu près tous sur le monde d'après, que je pense pour beaucoup, on espère avec des changements. Ça reste malgré tout beaucoup plus facile de rester dans le statu quo et de reprendre des vieilles habitudes que de changer. Comment on embarque ce changement à la fois peut-être d'un point de vue citoyen, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial?
C'est une bonne question.
C'est une question philosophique de Thomas Benzazon.
Voilà.
Une question philosophique par épisode.
Alors, déjà, je pense que c'est vrai qu'il y a une résistance au changement, mais là, quand même, nos modes de vie ont changé de manière tellement visible, brutale et quand même long terme. Enfin, tu vois, ça dure pas une semaine, quoi. Mmh. Que je pense qu'il y aura tout de même moins de résistance au changement et que la peur de l'autre va rester assez ancrée chez nous. Enfin, je sais pas si ça t'arrive, mais là, en ce moment, je regarde des films le soir ou des séries, peu importe. Mais quand les gens se touchent dans un film, ça me choque. Tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, tu dis, ah mais attends, ça c'est un truc de pré-crise. Il y a quand même quelque chose qui a trait à nos instincts les plus profonds, à savoir la peur et la peur de l'autre. Et ça, je pense qu'on va avoir tout de même du mal à s'en défaire et que ça va durer. Voilà. Donc, contrairement peut-être à d'autres changements où c'est plus facile de revenir à l'avant.
Là, tu décris les changements qui sont liés un peu anxiogène, comme on dit, c'est-à-dire à l'anxiété dans les rapports humains. Il y a également, on le voit, peut-être des changements positifs. Bon, certains parlent par exemple du retour de la nature, de la vie animale, de la qualité de l'air qui s'améliore grâce à la décarbonation vraiment de l'économie et du transport, de la qualité de l'eau. Mais du coup, peut-être aussi le rapport au bien manger dans ton cas et le rapport aussi humain à la production agricole, à l'alimentation, etc. Tout ça, ça peut être aussi peut-être des points positifs des transformations.
Absolument. Je pense que je trouve que le confinement nous fait reprendre conscience de plein de choses, nous fait nous réjouir de choses qu'on ne regardait même plus parce qu'on était pressé. Et donc effectivement, mais ces trucs positifs, je crois plus que les choses négatives entre guillemets impriment versus les choses positives où, comme disait Thomas, ben ça on risque peut-être un petit peu plus vite de les oublier. J'espère que ça changera durablement. Et de toute façon, dans l'alimentation, il y avait une tendance de fond au retour de la vraie volonté de bien manger et de se rapprocher du producteur. Ça, cette tendance, je pense qu'elle ne va pas disparaître et qu'elle va effectivement s'accélérer. J'espère aussi que toutes les initiatives de solidarité, le fait que les voisins, qu'on se recommence à parler à ses voisins, ou même qu'on se mobilise tous énormément pour aider les soignants, les plus démunis, etc., ça va rester. Mais effectivement, peut-être c'est ma nature de pessimiste, je pense tout de même que ce qui a tendance à changer le plus durablement les comportements, ça reste peut-être des choses assez instinctives, et la peur est parfois un moteur de changement. Pour autant, je suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de positifs. Et après, pour répondre plus précisément à la question sur comment l'accompagner, Je pense que c'est, et puis c'est toujours être présent avec le bon, la bonne offre et le bon produit au bon moment. C'est-à-dire que j'ai pas encore, tu vois, dessiné la stratégie marketing de sortie de crise. Mais ce qui est sûr, c'est que notre business aura complètement changé, puisqu'on aura énormément augmenté, ce qui est déjà le cas, la capacité de servir de notre supermarché, qu'on aura plus que triplé le nombre de références, etc., etc. Donc notre service sera transformé. Et il sera du coup en mesure de d'adresser beaucoup mieux les besoins des gens à la sortie de la crise sur la partie supermarché. Donc j'ai pour le moment pas anticipé comment on allait vraiment véritablement marketer les choses à la sortie de crise pour que la vague se prenne. Désolé,
mais est-ce que au-delà de l'évolution même, tu as dit que ta vision restait la même, qui est autour du bien manger en quelque sorte, si je me permets de la résumer de manière un peu drastique, mais en tous les cas c'était très clairement expliqué dans ton pitch de départ.
Ouais.
Mais est-ce que si on essaye de te pousser un peu dans tes retranchements, on peut considérer, oui, quand même effectivement que le monde de l'alimentation va changer, la façon de manger, etc., comme je l'évoquais,
ouais,
juste,
ouais,
dans la question précédente.
Est-ce, ouais,
que si on va un peu plus loin sur le modèle de la croissance, j'ai envie de te titiller un petit peu là-dessus, parce que moi-même, hein, en tant qu'entrepreneur et investisseur, je vois bien ce que c'est que d'investir dans des startups. On est dans un métier qui valorise et qui survalorise l'hypercroissance et la globalisation. Et j'aimerais bien qu'on parle de ces deux concepts. C'est un sujet qui te tient à cœur aussi, Thomas, parce qu'on a beaucoup préparé l'émission en réfléchissant à ces concepts, puisqu'on valorise la croissance par des levées de fonds, par l'accélération du temps. Et aujourd'hui, y a quand même un temps ralenti que certains valorisent. Et moi, je suis pas forcément un apôtre, hein, de la décroissance. Mais il y a une question, ouais, qui se pose entre le modèle même de la start-up, de la Silicon Valley, des levées de fonds et des taux de croissance à 2 ou 3 chiffres chaque année. Et puis, l'envie aujourd'hui de retrouver peut-être un temps un peu plus qualitatif que quantitatif.
Pour nous, ça change pas notre ambition que de continuer à développer la boîte très fortement pendant la crise, après la crise. Et la raison pour laquelle on a créé ce qu'on a créé, notre offre, notre système logistique, notre capacité à faire de l'ultra frais, on a toujours envie, et la crise n'y change rien, voire même elle accélère cette envie, de le développer le plus largement possible et d'y donner accès au plus de personnes possible. Donc sur la volonté de continuer de se développer fort, en fait elle est même renforcée, parce qu'on sent que notre service va être plus important et plus utile et plus demandé que jamais. Maintenant, ce que ça change en termes d'approche, et ce que ça renforce, parce que c'était déjà une conviction qui était naissante chez nous avant la crise, c'est l'importance de la rentabilité et de la santé, de la viabilité du business model. Donc c'est vrai qu'on avait commencé à le faire, je dirais, quelques mois avant la crise sanitaire déjà, mais ça l'accélère. Cette volonté que de ne plus être dépendant des levées de fonds, que d'avoir des métriques hyper sains qui démontrent parce que rentabilité ou quasi-rentabilité, où tu y es derrière, tu utilises l'argent que tu perds que pour investir justement dans la croissance, mais tes métriques opérationnelles sont ultra solides. Ça, c'était déjà quelque chose qu'on avait commencé à faire, et c'est quelque chose qui devient, qui nous guide et qui est notre boussole aujourd'hui plus que jamais. Voilà, donc ça change vraiment. Mais pour autant, l'ambition reste là, et la volonté que de se développer est là, mais de manière saine. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a les boussoles changent quand même pour pas mal de boîtes. On voit pas mal d'entreprises pivoter en ce moment, certaines boîtes du B2B qui se mettent à faire, ouais, du B2C. On en voit aussi beaucoup qui prennent ce temps un peu imposé pour réfléchir à leur mission, leur rapport au monde. Je sais que vous êtes dans le dur et que vous bossez énormément, mais est-ce que vous avez le temps de réfléchir à l'après ? Et si oui, quelles sont les premières pistes envisagées ?
L'idéal, ce serait que on a énormément développé notre business de courses et de supermarchés, et que du coup notre idéal, c'est que ça vienne s'additionner, voilà, de ne pas perdre ce business-là qui aura été développé pendant la crise, et que ça vienne s'additionner à notre business historique de le déjeuner en entreprise. Donc ça c'est notre idéal. Et après on a déjà compilé plusieurs scénarios dont on ne sait pas exactement lequel va se réaliser, sur est-ce que combien de temps le marché du B2B va mettre à reprendre, quelle est l'offre avec laquelle on va s'adresser justement s'il y a un déconfinement un peu long pour accompagner les entreprises et les clients en télétravail. On échafaude pas mal de scénarios en fonction de différentes options, de timing, de type de déconfinement, de, etc. pour pouvoir être prêt à dégainer différentes stratégies. Et pour être très honnête, c'est une discussion voilà qu'on a avec notre codir et j'ai absolument pas les réponses. Le but est d'être prêt sur les différents scénarios et à mesure que l'on va tester des choses ou voir quelles vont être les réactions de l'économie, des consommateurs aux différentes choses qu'on va tester et à la situation, on va pouvoir appuyer plus ou moins sur certaines choses. Donc je ne sais pas te dire aujourd'hui. Mon idéal, c'est que notre business de supermarché se maintienne et continue de se développer parce qu'on aura beaucoup transformé l'offre, on l'aura rendu bien meilleure et qu'on vienne y additionner la partie de cantine et de B2B. Si la partie B2B met beaucoup plus de temps à reprendre que ce qu'on l'avait imaginé, on se concentrera exclusivement sur le développement du supermarché. Tu vois, on est plus dans ces idées d'être prêt, mais par contre, d'être aussi à l'écoute de ce qu'on va découvrir à mesure que le monde va changer et de pas s'acharner à essayer de vendre un truc où personne sera à l'écoute.
Oui, merci Julia, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Juste, on voit en fait que vous réfléchissez beaucoup et c'est vrai que ce qui est spécifique souvent au monde des startups, c'est ce qu'on appelle l'agilité, la capacité à rebondir, à se transformer. Parfois, on parle de pivot, qui est un peu ton cas quand tu parles de grande distribution notamment. Est-ce qu'il y a un sujet juste organisationnel? Est-ce que vous avez une façon ou est-ce que tu as un truc à partager sur l'organisation que vous avez mise en place? Est-ce qu'il y a une cellule de crise spécifique? Tu parlais de ton codir, donc je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a des cellules d'opportunité ou est-ce que c'est plus les fondateurs ou toute une équipe qui travaille là-dessus? Et qu'est-ce que tu recommandes de faire aux gens qui t'écoutent et qui sont aussi des gens qui sont en train de lancer des startups, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et ses capacités d'adaptation?
Ouais. Première chose, c'est qu'on a remis en place, on le faisait qu'une fois par mois, et on a remis en place toutes les semaines ce qu'on appelle notre fridge team, ça veut dire le all hands de la boîte, c'est-à-dire que toute la boîte se connecte et chaque équipe, ou Quentin et moi, ou les leaders du codir, présente les résultats, la stratégie, ce qu'on apprend. Et encore une fois, comme je le disais au début, on est ultra transparent sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on a découvert, sur ce qu'on a appris, sur là où on va à court terme. Et on a plus que jamais, parce que c'est la crise, repris, je pense, une échelle encore plus court terme, plus court terme que celle qu'on avait réussi à mettre en place avant la crise sanitaire. C'est sûr que plus une entreprise grandit, plus elle doit apprendre à anticiper et à se préparer sur des horizons de temps un peu plus long terme, qui permettent d'être moins dans la course. Ben là, on est revenu, je dirais, presque au début d'une start-up avec des échéances de temps qui sont ou à la journée ou à la semaine. Voilà, ça nous refait vivre l'adrénaline des débuts. Et après, nous, on estime que chaque personne, chaque leader du codir est responsable de sa stratégie et d'adapter les plans stratégiques. Donc, il n'y a pas des personnes qui travaillent sur la crise ou des personnes qui continuent à travailler à l'après. C'est intrinsèquement lié. Toutes les équipes sont focus à réfléchir aux deux. Et par contre, on a maintenu ce qu'on appelle, nous, le temps stratégique qu'on appelle OKR. C'est une méthode qui, de manière trimestrielle, nous permet de définir les stratégies de chacun des pôles et donc, évidemment, la stratégie et la vision d'entreprise. Et donc là, on a refait un exercice d'OKR, un exercice stratégique pour les mois à venir, puisque tout a été radicalement bouleversé par la crise sanitaire.
Par curiosité, OKR, c'est un truc que vous avez inventé ou c'est un acronyme pour quelque chose
non,
que
oui,
tu peux nous expliquer?
Absolument, c'est
oui,
un
c'est
acronyme.
Oui, c'est un concept de start-up.
Alors attends, je ne sais même pas pourquoi cet acronyme Objectives and Key Results. C'est une méthodologie, normée pour dessiner une stratégie dans une entreprise. C'est en général, en tout cas nous, on le fait de manière trimestrielle. Et chaque équipe est chargée de définir ses objectifs et tous les objectifs doivent être chiffrés avec des key results. La somme de ces objectifs fait une stratégie. La vision et la priorisation est, elle, décidée par le CEO. Voilà.
Pour compléter la réponse de Julia, Thomas, on peut avoir des auditeurs qui ne sont pas forcément dans le monde et dans le jargon des startups, en effet. OKR, c'est OKR, donc c'est un acronyme avec ces trois lettres, Objective Key Result.
Et c'est effectivement une méthodologie qui permet de décomposer en gros les grands objectifs de l'entreprise en plein de petits objectifs dont chacun sont associés à des chiffres et à des indicateurs que chaque collaborateur, chaque chef d'équipe et chaque manager peut s'approprier et voilà. L'ensemble est consolidé ensuite dans un tableau de bord que le comité de management ou le comité de direction peut partager avec une visualisation des données qui permet aussi beaucoup de transparence au sein des équipes pour voir là où on en est et le chemin qui reste à parcourir.
Et alors moi, je vois le chemin qui reste à parcourir sur ce podcast. On a pas mal de sujets encore à aborder. Mais juste avant, et peut-être pour faire la transition sur ce sujet de l'après, une question qui, toi, te tenait à cœur, Olivier, à poser à Julia, c'était en cette période et avec l'observation que tu fais du monde d'aujourd'hui et du monde à venir, si tu devais lancer une nouvelle boîte post-crise, tu lancerais quoi ?
Très bonne question que je n'avais pas préparée. je réfléchis. Je pense que je lancerai une boîte dans l'éducation online. Voilà. Je le vois et avec ma fille, c'est très compliqué. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a des petits outils, mais qui sont absolument pas scalés. Les écoles sont encore assez peu digitalisées et je trouve que il y a encore trop peu de choses, il n'y a pas une application de référence pour ce qui est éduquer ses enfants de manière, sur des outils digitaux. Voilà ce que je lancerai. Je suis assez passionnée d'éducation, donc.
Ce serait une noble mission et clairement aujourd'hui, on sent tous quand on a des enfants qu'elle est mise à mal. Les outils et les écoles, les collèges, les écoles primaires, etc. font tout ce qu'ils peuvent avec Skype, avec des visios, en envoyant des emails, etc. Mais on constate que les enfants sont un peu laissés seuls et clairement, on aura besoin d'outils de revisiter l'ensemble des programmes, mais aussi des méthodologies.
Absolument.
Olivier, je vais te laisser le choix de la suite. Vu le temps qui nous reste, on peut parler croissance. On peut évidemment, et ça, je pense qu'on fera pas l'impasse dans tous les cas, mais revenir sur l'humain et la femme qui est Julia pour comprendre d'où elle vient et pourquoi elle en est là.
Non, mais c'est intéressant. Je crois qu'on a pas mal parlé du business. On a parlé également des engagements de Julia et de Frishti. Donc, on a fait le tour de pas mal de questions. On a parlé également du monde d'après. Nous, je trouve que c'est quand même intéressant et important de rentrer dans une partie peut-être un tout petit peu plus intimiste.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Ça nous intéresse aussi de savoir qui est Julia. Et c'est intéressant de voir comment on en arrive là parce que nous, on voit aussi ce podcast 40 nuances de Next comme un podcast d'inspiration. Et parfois, je prends la comparaison aussi avec, par exemple, les grands sportifs ou les grands artistes. Ce sont eux aussi qui sont capables de déclencher des vocations. Apprendre le piano, apprendre le tennis, c'est aussi parfois parce qu'on a écouté une belle musique, regardé un grand match, entendu une interview d'une personnalité. Nous, ça nous intéresse de voir aussi un tout petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui, tu penses, t'a peut-être forgé en tant que caractère. Tu vois, quelles études tu as faites, quel rôle a pu jouer même ta propre famille. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es devenue une entrepreneuse et maintenant une entrepreneuse à succès ?
Alors, d'où je viens ? Je viens d'une famille d'entrepreneurs, déjà. Donc, je pense que clairement, c'est gravé dans mon ADN. Et
donc, les chiens ne font pas des chats.
Voilà, exactement. Alors, entrepreneurs dans le domaine médical. Donc, mes parents avaient des laboratoires d'analyse médicale. Donc c'est pas vraiment exactement le même domaine ni même la même échelle, mais pour autant j'ai toujours vu ça comme leur liberté / asservissement choisi, on va dire que permet l'entrepreneuriat a toujours été une évidence et assez naturelle, comme une évidence pour moi. Par ailleurs, je viens d'une famille, donc mes parents ont entrepris ensemble. Et donc, pareil, j'ai copié le modèle familial puisque mon conjoint est mon associé. Et quand j'étais petite, je pensais d'ailleurs que tous les parents travaillaient ensemble. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des parents qui avaient des métiers différents.
Est-ce que tu ne vois que des avantages à cette situation ? Parce que parfois, moi, j'entends dans certains conseils d'administration ou certains investisseurs qui disent « Ah non, si c'est un couple, je préfère ne pas investir, ça va nous créer des problèmes ».
Alors ça, je trouve que c'est une réflexion pardonne-moi, mais stupide, parce que en fait, il peut y avoir autant de problèmes avec des associés fondateurs couples que des associés fondateurs qui n'ont rien d'autre à sauver que leur boîte. Tu vois, quand t'es un couple, bien sûr que ça pose des problèmes Et je pourrais en parler juste après. En revanche, quand justement tu as des différends, contrairement à quelqu'un avec qui tu pourrais être associé, avec qui tu n'es pas lié par ailleurs, bah, tu peux plus facilement rompre ton association, ne pas chercher à résoudre les conflits et juste claquer la porte. Donc pour moi, chaque cas est différent et avoir des règles de... moi, j'investis pas dans des couples, je trouve ça vraiment pas très smart. Mais oui, bien sûr que...
Je suis plutôt d'accord, je l'ai entendu.
Oui, oui, non, j'imagine. Mais bien sûr que ça a des avantages et des inconvénients. Et à titre plus personnel, l'avantage, c'est que ton entreprise, c'est quand même... quand t'es entrepreneur, ça prend une énorme partie de ta vie. Le fait de vouloir réussir et de porter ta boîte encore plus loin, donc ça peut être très overwhelming. Donc forcément, partager cette ambition, ces difficultés parfois, et même les joies avec la personne avec qui tu partages ta vie, finalement, tu te sens plus unie et plus en symbiose que jamais, puisque tu te comprends parfaitement, tu comprends ce que l'autre vit, puisque tu vis la même chose. Donc ça, je dirais que c'est assez génial.
Et après, et le pendant, oui.
Et le pendant, c'est que tu as beaucoup plus de mal à te déconnecter à trouver, quand ça va justement un peu moins bien ou quand tu es plus stressé, des relais de soutien et de décompression ailleurs. Et nous, heureusement qu'on a eu des enfants, alors on les a pas fait pour ça, mais nos enfants sont aujourd'hui ce qui est plus important que notre entreprise, et ça nous aide énormément à déstresser, relativiser, mettre à distance et donc être des meilleurs entrepreneurs et des meilleurs décideurs, parce que quand t'es stressé et que t'es pas bon, en fait. Mais pour autant, effectivement, parfois tu tournes en vase clos sans pouvoir aller te vider la tête ailleurs, discuter avec quelqu'un qui a une perspective extérieure, etc., etc. Et donc, des situations stressantes peuvent parfois devenir encore plus stressantes parce que finalement, ta vie professionnelle et ta vie personnelle sont profondément imbriquées.
Pour préciser ce point-là, est-ce que la période de confinement, et tu as le droit de nous dire, qu'on pose des questions limite trop personnelles et on a le droit de se donner des claques pendant le podcast aussi, mais est-ce que la période de confinement, c'est un moment particulier que vivent beaucoup de nos collaborateurs et nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on vit avec nos familles, tout en travaillant à distance, et du coup, le fait d'être en couple, est-ce que ça change quelque chose finalement, ou d'une certaine manière, vous aviez déjà l'habitude d'être tout le temps ensemble, donc de parler peut-être, à moins que tu aies des règles précises de répartition du temps de parole, etc. Vous étiez déjà de manière assez continue ensemble, à la fois au bureau et à la maison. Donc est-ce que du coup, ça change quelque chose par rapport aux autres associés?
Je pense qu'effectivement, on est presque plus préparé. Voilà, ouais. Non, on est plutôt plus préparé à ça que d'autres couples, parce qu'on passe déjà énormément de temps ensemble habituellement. Ça, bien sûr que ça change des choses, et notamment dans le fait que nos enfants sont présents toute la journée et qu'il faut forcément leur donner plus attention, et que la séparation entre la vie perso et la vie professionnelle est encore plus compliquée à marquer et à faire, surtout quand on est très occupé comme on l'a été ces dernières semaines. Entre nous, je dirais que voilà, on est plutôt habitués, et après c'est plus ce nouvel équilibre à trouver. En famille, dans un appartement. Quoi.
Après, la bonne nouvelle, c'est que ça te permet de faire des réunions d'associés en évitant les conf calls.
Absolument.
Je reviens sur ce qui t'a forgé. Est-ce qu'il y a des moments clés de ta vie, au-delà du fait d'avoir des parents entrepreneurs qui t'ont guidé vers ce choix d'indépendance?
Je réfléchis, mais je pense que j'ai toujours eu une personnalité un peu très créative, avec des espèces de convictions, d'intuitions que j'ai du mal parfois à justifier ou à expliquer. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à le faire à mesure que la boîte grandit. Mais le fait de créer quelque chose ça a toujours été très prégnant et très fort dans ma personnalité. Je pense que c'était assez naturellement lié. Et après, pour revenir plus précisément sur mon parcours et les rencontres que j'ai pu faire, il y a mon parcours d'abord où j'ai choisi de faire une prépa, puis j'ai fait HEC, puis j'ai fait HEC entrepreneur. Donc j'ai construit mes stages vraiment avec cette volonté que déjà de devenir entrepreneur. Donc j'avais choisi de faire un stage en marketing chez Procter & Gamble en me disant c'est le meilleur endroit où j'apprendrai à faire du marketing. Puis j'avais fait un stage en venture capital en me disant, comme ça, je vais apprendre à construire un business plan. Et puis, je vais comprendre ce qui fait que tu arrives à lever des fonds ou qu'au contraire, t'es mis de côté par un VC. Donc j'avais, tu vois, que j'ai construit quand même mon parcours en fonction de cette volonté que d'entreprendre, assez décidée, on va dire, à la sortie de mes études supérieures, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis, j'ai rencontré une personne qui a pas mal changé la donne. Dans un premier temps, ça a été Pierre Valade. Donc je ne sais pas s'il me posera une question dans ce podcast, mais ça a été quelqu'un de très, très important dans ma vie, parce que j'ai fait un stage complètement par hasard dans sa première start-up. Et c'est vraiment Pierre, donc qui est un entrepreneur qui a par la suite monté d'autres startups, dont une startup qui a eu beaucoup de succès et qui était un calendrier virtuel qu'il a revendu à Microsoft il y a à peu près 2 ans. Bref, c'est quelqu'un d'incroyable et surtout qui m'a complètement ouvert les yeux sur le web. C'était dans ma première année d'HEC, donc c'était en 2008 ou 2009, c'était les balbutiements, tu vois, des réseaux sociaux, de Twitter, etc. Et à partir de là, non seulement j'ai fait un premier stage dans une start-up et j'ai découvert ce que c'était que de bosser dans une petite boîte et d'être responsable et de tout et en pleine, voilà, d'avoir un impact direct sur ce que tu faisais. Donc j'ai adoré cette idée de travailler en start-up, mais aussi le monde du web où tu peux être, globalement, on était 3 dans un bureau et on était en train d'imaginer qu'on allait changer le monde et faire un truc à très très grande échelle, et juste parce que tu savais coder des lignes de code, etc. Enfin voilà, ça t'ouvrait des perspectives absolument extraordinaires. Donc j'ai découvert complètement le monde du digital, le monde du web, le monde du social avec cette expérience-là. Et après, j'ai finalement nourri cette découverte en entreprenant différentes choses. On a, même avec Pierre et d'autres, créé un comparateur de programme qui s'appelle Vox, maintenant dont je fais plus du tout partie et qui a une super trajectoire parce que c'est devenu une newsletter d'empowerment, bref, mais voilà, j'ai organisé des hackathons, je suis restée connectée à ce monde, on va dire, du digital, toujours en créant, en faisant des choses, en lançant des initiatives, et tout ça a été, je pense, des prémices d'expérience qui m'ont appris ce que c'était que d'entreprendre et de créer, quoi.
Donc voilà. Une Julia Bijaoui très très active. Alors je sais que Olivier avait dit plus de questions philo pour ce podcast. Peut-être juste une dernière avant de passer au sujet d'après. J'aimerais bien savoir quel héritage tu souhaites laisser derrière toi.
Wow.
Vous avez 3 heures.
Par héritage, on peut.
Ouais,
non, mais par héritage, on peut aussi remplacer ça par une question sur une leçon que tu as apprise et quelque chose que tu aimerais laisser. Ça peut être à ta fille, ça peut être à la postérité. Mais c'est vrai que on sait, nous, que l'entrepreneuriat, c'est aussi une école dure mais passionnante. Et donc, on apprend des choses, quoi.
Absolument. Plein de choses. Je suis hyper d'accord avec le fait que l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui est extraordinaire avec ce que ça veut dire de haut et de bas, tu vois, extraordinaire dans le sens où c'est pas normé, mais tu vas très très haut et très très bas, et même c'est une expérience qui remet énormément en question. Donc moi, mon plus gros learning, c'est d'apprendre, de savoir ce qu'on vaut, d'apprendre à se connaître. Dans quoi est-ce que t'es bon, dans quoi est-ce que t'es pas bon, et moi, ce que j'apprends, c'est que tu peux faire des efforts, tu peux t'améliorer sur des choses où t'es pas bon, mais tu seras jamais excellent sur les choses où t'es pas très bon. Or, pour réussir dans une carrière ou dans l'entrepreneuriat, moi, mon conseil et mon learning, c'est qu'il faut plutôt chercher à cultiver ses forces et à en faire des assets, des atouts exceptionnels qui te mettent loin devant sur ces caractéristiques-là, loin devant, et qui peuvent te permettre de vraiment apporter et de vraiment contribuer, et de pas essayer d'être bon partout et de te travestir ou de cultiver tes faiblesses. Ça, c'est un truc qui est bien quand tu fais tes études ou voilà. Mais quand il y a des enjeux derrière de réussir une aventure, je pense que il faut être clair, il faut se connaître, et je pense que c'est plutôt chercher à cultiver ses forces. Donc moi, j'ai appris à me connaître. Je pense que l'autre énorme learning, c'est que le monde appartient à ceux qui se font confiance, quoi. Et alors évidemment, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est vrai dans plein d'autres carrières. Avoir confiance en soi, aller demander, exiger, être toujours ambitieux dans les timings. Enfin voilà, juste vivre dans un monde où tu oses plein de choses que tu initialement, si tu réfléchissais 2 minutes, tu te dirais ah ben non, mais ça je demanderai plus tard, ou ça je demande pas, ou si ou ça. Ben ça, c'est un frein versus ceux qui ne s'en mettent pas et qui ont un moteur qui les emmène toujours plus loin. Et je pense que c'est ces personnes-là qui, dans le monde dans lequel on vit, sont amenés à entreprendre et à faire beaucoup de choses et à avoir beaucoup d'impact.
Eh ben ça, c'est une leçon effectivement de vie. Ça concerne pas que l'entrepreneuriat.
Bon, alors je propose, en tout cas, sur ces paroles hyper inspirantes de Julia, de justement lancer notre nouvelle rubrique, donc petit jingle.
S'inspirer. Respirer.
On rentre dans la rubrique qu'on a appelée s'inspirer, respirer. Donc c'est un moment également, je dirais, non pas de méditation, mais d'essayer de comprendre quels sont les ressorts de Julia, parce qu'un entrepreneur doit aussi observer le monde pour le comprendre. Donc il y a des petites sous-questions comme ça qu'on se pose, mais en quelque sorte, par exemple, comment t'inspires-tu ? Qui t'inspire ? Ou quoi t'inspire aujourd'hui? Et ça peut être évidemment en dehors de ta vie professionnelle, ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être philosophique, historique ou quoi que ce soit.
Oui, bien sûr. La première personne qui m'inspire, et heureusement, c'est Quentin. Donc mon amoureux, mon conjoint, mon associé. Son ambition sans limite, son énergie, son enthousiasme, son sens des autres m'inspire et c'est la première personne qui m'inspire. Donc voilà, s'il écoute ce podcast, il écoute jamais les interviews que je fais, donc il l'écoutera pas, mais il devrait. Et puis après, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être hyper en prise avec le monde dans lequel tu vis. Et il y a plein de manières de le faire. Donc, j'essaye de garder du temps pour continuer à écouter la radio, lire les journaux, même regarder des films. Je suis pas mal de gens très intéressants sur Instagram. Et ça, c'est intéressant à la fois dans le contenu, parce que c'est des gens qui parlent de bouffe, évidemment ça m'inspire pour les nouvelles tendances et ce qu'on devrait explorer dans notre offre Frishti, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui lancent des initiatives extraordinaires tout le temps et qui parlent beaucoup. Donc voilà, si c'est une espèce de myriade de choses, j'ai pas un endroit particulier. Au contraire, de chaque expérience, de chaque rencontre, de chaque article, j'essaye de tirer quelque chose qui peut m'apprendre, qui peut me faire réfléchir et éventuellement parfois ça fait naître des idées ou ça me conforte dans une décision ou au contraire ça me fait me dire qu'on est en train de se fourvoyer sur certaines choses.
Un petit mot peut-être sur là où tu vas puiser ton énergie.
Là où je vais puiser mon énergie, c'est clairement mes enfants. Le fait de passer du temps avec eux, leur apprendre des choses, apprendre d'eux, rigoler avec eux, ça me vide complètement la tête, évidemment. Ça me fait complètement oublier, par ailleurs, ma vie professionnelle, qui peut parfois être évidemment passionnante, mais aussi un peu stressante. Et c'est clairement une ressource d'énergie inégalable. L'insouciance et le sourire d'un enfant, ça met une énorme claque et ça fait tellement de bien que c'est vraiment là où je vais.
Bon, c'est une super transition pour Attention Jingle.
Waouh !
Évidemment, en ce moment, on vit tous une claque mémorable avec cette pandémie. Mais si on met ça de côté et si on met de côté peut-être 2008 aussi, la chute de Lehman Brothers, quelle est la plus grande claque que tu as prise dans ta vie ?
Et ben avant Frishti, j'ai lancé un restaurant duquel je suis partie au bout de quelques mois. Donc ça a été un échec cuisant à plein d'endroits. Après, ça m'a apporté et appris beaucoup de choses.
Est-ce qu'il existe encore ce restaurant ou il est...
Il existe encore, il existe encore. Il s'appelle le Barlu et il est sur les quais de la Seine. Et en gros, j'étais associée à quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le métier et qui était le meneur de projet, mais plus au sens financier. Il était censé me coacher et m'apprendre un peu les ficelles du métier. Donc, j'avais en tête de vouloir entreprendre quand je suis sortie de ma première expérience chez Birchbox. Et je voulais le faire dans la food. Donc forcément, quand tu dis entrepreneuriat nourriture, bah, tu penses restaurant. Donc je me suis dit, bah, voilà, je vais me lancer dans cette aventure et dans cette expérience avec cette personne. Et puis ça a été un échec cuisant personnel pour plein, enfin et business. Après le restaurant a rebondi et s'est tout à fait développé. Mais en gros, j'ai découvert que le métier de la restauration au sens tenir un restaurant, donc finalement avoir une partie assez opérationnelle, c'était pas du tout mon truc, contrairement à ce que j'avais pu imaginer. Je m'étais imaginé que voilà, se reconnecter au monde réel, au monde vivant, et tous les jours tenir mon restaurant, ça allait être quelque chose qui me plaisait, qui allait me plaire. Et en fait, je me suis découverte assez nulle dans ce rôle. En fait, pour qu'un restaurant fonctionne, ça tient beaucoup au patron. Ça, c'était quelque chose que me répétait beaucoup mon associé de l'époque, et il avait raison. Sauf que, ben voilà, moi, danser sur les tables, taper dans le dos d'un client, enfin voilà, il faut une certaine personnalité, un amour de, enfin voilà, faut être charismatique dans un certain sens, on va dire en tout cas. Et c'était pas du tout mon kiff, quoi, premièrement. Deuxièmement, je pensais en fait assez vite lancer ce restaurant et puis pouvoir en lancer d'autres avec des concepts assez forts. Et puis, par manque de préparation, par manque d'alignement avec cet associé justement, en fait, je me suis rendu compte que je me suis très vite laissée noyer dans l'opérationnel. Ils n'avaient ni préparé suffisamment le projet et le concept, ni, tu vois, mis suffisamment d'ambition dans tout ça pour que ce soit possible. Et donc, en fait, je me suis vue rester aux commandes du restaurant 6-7 jours sur 7, du matin au soir, à servir des cafés. Ce qui en soi n'est pas du tout un mauvais métier, mais qui n'était pas du tout ce que je voulais faire, puisque j'avais tout de même pour ambition que de monter plusieurs lieux avec des vrais concepts. Et en fait, voilà, par manque d'organisation et d'alignement, surtout avec l'associé, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, bah, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais je me suis juste plus du tout reconnue, ni dans le projet, ni dans ce que je mettais en œuvre chaque jour et dans ce que ça m'apportait. Et j'ai donc décidé de quitter le navire, alors que initialement, j'avais entrepris ce projet avec des étoiles dans les yeux en disant que je réalisais mon rêve.
Bon, écoute, sans transition, on va passer à notre nouvelle rubrique que je relance.
Vous avez un message.
La rubrique Question Flash. Je rappelle qu'on a également quelques partenaires médias pour le podcast qui est les 40 nuances de Next. Un partenariat avec Madines, un partenariat avec La Tribune, un partenariat avec France Digital. Tout ça, ce sont autant d'invités qui vont te poser des questions, Julia.
D'accord.
Je te laisse lancer la rubrique, Thomas, parce qu'on a aussi nos propres questions.
C'est parti. Alors du coup, rapidement, et je te propose de répondre par contre très vite. En plus, je crois que tu dois partir d'ici une quinzaine de minutes, donc on va essayer d'être efficace.
D'accord.
La question qu'on te pose tout le temps, à laquelle tu en as marre de répondre.
Quel est votre chiffre d'affaires?
La question à laquelle tu répondras pas.
Quel est votre chiffre d'affaires?
Et la question qu'on ne pose jamais, en fait, c'est tant mieux.
Excuse-moi, je réfléchis.
C'était peut-être celle-là, justement.
Exactement.
Là, c'est bien, c'est une bonne transition, merci, parce que je ne savais pas comment nous dépatouiller de ça. Ce que je te propose, c'est peut-être, Olivier, de démarrer par les questions des partenaires.
Écoute, je propose qu'on commence peut-être par France Digital avec une question de Nicolas Brienne. Le temps que tu le lances, je fais trois petites notes de piano.
Bonjour Thomas, bonjour Olivier et puis bonjour Julia. J'ai une question pour Julia qui explore à travers Frishti les nouveaux modèles de travail avec ce réseau de cantines, ce réseau de livreurs. Ma question, elle est simple, c'est comment est-ce que tu construis de nouvelles formes de travail avec une vision éthique et sociale? Ma question, elle va être hyper directe. Est-ce que Frishti peut devenir l'anti-délivreau?
Ah là là. Merci Nicolas, j'adore cette question. Donc merci pour cette question. Effectivement, depuis le début, on construit Frishti avec la volonté que d'offrir une voie facile pour avoir une alimentation plus responsable et qui dit et meilleure et qui est plus qualitative. Et donc qui dit bon au sens large, en fait bon c'est pas juste la qualité des aliments, c'est la manière dont ils sont cultivés bref le savoir-faire qu'il y a derrière chaque produit ou chaque plat, mais c'est aussi avoir un écosystème qui est vertueux pour tous les gens qui sont impliqués dans le processus de transformation et dans le service Rishti. Ça va des producteurs, en passant par nos salariés, et jusqu'aux livreurs. Et je remercie Nicolas d'avoir posé cette question, parce qu'effectivement, la question des livreurs est souvent une question... est un sujet de société qui peut poser question. Aujourd'hui, nous, on a créé 350 jobs en interne, en CDI. C'est pas que des jobs de développeurs, de data analystes. C'est aussi des jobs de cuisiniers, de préparateurs de commandes. Et puis, on a nos jobs de livraison qu'on propose sous la forme d'auto-entrepreneuriat. Qu'on a commencé au début de Frishti par proposer sous la forme de salariat. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas du tout adapté à ce métier. Globalement, on avait un turnover où il fallait qu'on recrute les deux tiers de la flotte chaque mois, et les gens partaient très vite, et ils allaient tous chez Deliveroo et Uber en me disant mais faites comme eux, proposez-nous ce statut. Nous, on n'a pas du tout envie de faire ce job sous la forme du salariat. Donc c'est là où il y a à peu près un an et demi, on a décidé de sur ce job-là en particulier changer notre fusil d'épaule. Et c'était pas parce que on voulait précariser qui que ce soit, c'est parce qu'on a pris une conscience d'une réalité qui est que le job de livreur, il faut qu'il soit fait de la manière la plus respectueuse et humaine possible, mais néanmoins ça reste un job qui n'est pas un job, qui est plutôt un job de transition ou de complément. Et c'est pas personne veut faire de sa carrière un job le métier de livreur. C'est la raison pour laquelle on a décidé de switcher et de le proposer sous le modèle auto-entrepreneuriat, en pensant pas du tout que c'était une précarisation, mais plutôt en pensant que soit ça allait offrir un complément de revenu à des gens, soit ça allait mettre un premier pied à l'emploi de certaines personnes qui en étaient déconnectées aujourd'hui. Et juste avant la crise, on était en train d'annoncer quelque chose, mais qu'on a repoussé après la crise, donc je peux parler un petit peu là en avant-première, qui est une plateforme pour que les livreurs qui le souhaitent qu'on puisse les aider à accéder à un emploi plus pérenne, notamment en CDI et notamment chez nous. Comme je vous le disais, on n'a jamais été frileux de créer de l'emploi en CDI. On en a créé 350 et on va continuer à en créer. C'est pas le sujet. C'est que sur ce job-là, bah oui, c'est un job de transition. Et donc, comment on les accompagne pour que ce job, et pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a plein de gens qui ne le veulent pas, soit un tremplin vers l'avenir. Et ça, c'est notre vrai rôle et c'est comme ça qu'on va aller plus loin.
Et du coup, si tu peux répondre un tout petit peu plus rapidement, excuse-moi, c'est juste pour qu'on puisse parler de tout le monde.
Bien sûr.
Je te propose de répondre à la question de Géraldine Russel, qui est journaliste chez Madinès.
Vous avez un message.
Bonjour Julia, je me posais la question s'il y avait eu dans votre vie un ou plusieurs événements qui auraient pu vous préparer d'une manière ou d'une autre à cette crise.
Je pense que ce qu'il faut pour adresser cette crise, c'est énormément de résilience et de flexibilité, et une capacité à faire naître des projets de terre extrêmement rapidement. Et clairement, ce qui m'a préparé, ainsi que toute la boîte, c'est que Frishti vit dans ce mode-là depuis 5 ans. Donc peut-être plus que n'importe quelle autre boîte, ou en tout cas, tout comme les autres startups et les autres scale-up, cette capacité à s'inventer, se réinventer et faire sortir des projets de terre en quelques jours, elle est très forte chez nous depuis le début, elle fait partie de notre ADN et elle nous aide énormément dans cette crise.
Eh bien, le directeur de la rédaction de notre partenaire La Tribune, Philippe Mabi, a également une question pour toi, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bonjour Julia. Donc ma question porte sur le rôle de la food tech pendant cette crise absolument extraordinaire que nous sommes en train de vivre sur le Covid-19. Bon, on s'aperçoit que la food tech a joué un rôle pendant la crise avec des livraisons, effectivement, de personnes qui étaient confinées. Mais j'aimerais aussi savoir votre vision du rôle et des perspectives de l'alimentation du futur et de la food tech dans le monde d'après. Quels sont les différents scénarios qu'on peut envisager pour ce secteur qui peut jouer un rôle effectivement important dans un monde où on va probablement connaître des risques épidémiques pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas.
Alors, effectivement, premièrement, on anticipe une accélération de la digitalisation du secteur de la distribution alimentaire, des courses. Et donc, forcément, des services comme les nôtres qui distribuent des produits frais en les livrant avec des délais très courts, vont être très prisés, selon nous, pendant et après cette crise, et vont pouvoir aider à continuer et à maintenir une certaine distanciation sociale. Et puis, par la suite, ça aura donné goût à beaucoup de clients que de faire leurs courses à travers ce moyen-là, pour des raisons de praticité et de qualité. Par ailleurs, sur notre deuxième partie de business, qui est plutôt le B2B et les cantines, on pense effectivement que le télétravail va beaucoup se développer et que donc des solutions de cantines virtuelles très flexibles qui permettent d'apporter de la nourriture de qualité vont être assez prisées par les entreprises et donc là encore vont accélérer la transformation du secteur de la restauration collective.
Tu parlais de ton intuition, donc tu as eu le nez fin. On écoute tout de suite Pierre Valade.
Vous avez un message.
Julien, j'aimerais te poser une question sur le début, une question que beaucoup de futurs entrepreneurs se posent au début d'un projet, qui est comment bien choisir un projet sur lequel se lancer. Est-ce qu'un bon projet, c'est un projet sur lequel on est passionné? Est-ce que ça suffit la passion ou est-ce qu'il faut garder d'autres critères quand on démarre? Et avoir ton retour d'expérience sera certainement très utile pour beaucoup de personnes qui écoutent et qui veulent monter leur propre projet.
Alors, je pense que la passion.
Peut-être préciser, peut-être, excuse-moi, oui. Julia, je voulais repréciser qui est Pierre Valade, parce que tu l'as cité tout à l'heure, mais il mérite d'être réexpliqué. Donc, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui te connaît bien, et c'est également un business angel, c'est-à-dire un investisseur particulier qui a mis de l'argent dans Frishti.
Absolument. Donc, évidemment, la passion, quand on entreprend, elle est très importante, la passion d'un secteur, mais aussi la passion pour le métier d'entrepreneur. La passion pour construire une équipe, l'idée, impliquer des gens dans les décisions, construire des stratégies, avoir un impact sur le monde, je pense que c'est un métier particulier et il faut bien réfléchir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, la passion d'un secteur, oui, évidemment, parce qu'on va passer beaucoup de temps à réfléchir à ce secteur et que forcément, si on est intéressé par ce secteur, on a facilement des intuitions de ce qu'il faut y faire. Et en revanche, évidemment, c'est pas du tout, selon moi, le seul critère qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. Et il faut regarder ce projet de manière aussi un petit peu plus factuelle. Et je pense que les critères ne sont pas de juger de la qualité de son idée initialement, mais plutôt de regarder plusieurs choses. Un, le marché, la taille du marché. Est-ce que c'est un gros marché qui va permettre qu'il y a des problèmes à un instant T, et si oui, quels sont ces problèmes et correctement les identifier. Je pense que un bon entrepreneur au début sait poser les bonnes questions et pas forcément apporter les bonnes réponses tout de suite. Et je connais pas beaucoup de boîtes qui se soient lancées avec des idées qui n'aient pas changé à mesure que l'entrepreneur découvrait des choses sur son marché. Deux, moi, le deuxième facteur que j'utilise, c'est est-ce que il y a une capacité de récurrence d'achat sur ce marché? Est-ce qu'on va pouvoir proposer des services pour lesquels les gens vont venir et revenir? Parce que construire un service qui va être utilisé une fois tous les 10 ans, c'est très compliqué derrière d'acquérir des clients d'avoir un business viable. Donc, je pense que, enfin moi, en tout cas, c'est un deuxième facteur que j'utiliserai. Et puis, troisième question, c'est est-ce qu'on a la bonne équipe? Est-ce que, comme je le disais au début, on se sent soi-même capable d'entreprendre? Est-ce qu'on est bien entouré? Personnellement, je n'aurais jamais entrepris seul. Et il faut être sûr de ses associés parce qu'on va passer beaucoup de temps avec eux. On va avoir besoin qu'ils soient complémentaires, qu'ils fassent preuve de beaucoup de résilience. Et on sait, tout le monde le sait, au-delà des deux facteurs que j'ai cités, évidemment, le premier facteur de réussite d'un projet, c'est l'équipe.
Alors, on va conclure avec la dernière question surprise. On va volontairement pas te dire qui c'est et tu vas pouvoir, avant de répondre à sa question, nous rappeler qui te la pose.
Vous avez un message.
Cher Julia, je crois être la question surprise de la journée. Tu me reconnaîtras certainement. Au cours de ces dernières années, on s'est surtout croisé à l'occasion des bords de Frishti depuis que j'y ai investi il y a de cela 5 ans. Ton dynamisme, ta volonté de faire les choses à fond, ta vision m'ont toujours impressionné. Et cela a toujours été certainement une des raisons qui m'ont incité à investir chez toi. J'ai néanmoins une petite question à te poser que je n'ai peut-être pas osé poser devant tout le monde au bord de Frishti. Voilà, en tant que fondatrice d'une société comme Frishti, qui emploie beaucoup de salariés, beaucoup de freelances et beaucoup de sous-traitants, comment arrives-tu à concilier ce qui n'est peut-être pas toujours facile, le développement de l'entreprise, avec ta vision d'une entreprise sociale qui, je sais, font partie de tes valeurs?
Donc, merci Benoît Grossman pour cette question. Donc, effectivement, Benoît Grossman, qui est partenaire et directeur du fonds IDINVEST, et qui a investi chez Frisky effectivement très très tôt dans la vie de la société, qui a cru en nous depuis le début, et du coup je serais plus rapide. La dimension sociale et de création d'emplois est au cœur de la démarche de Frisky. Et encore une fois, que ce soit en interne avec la création des jobs en CDI, que aussi bien dans tout notre écosystème, on travaille avec des producteurs qui eux-mêmes créent énormément de jobs et d'activités, puisqu'on travaille avec des gens qui font des bons produits. Et pour faire une bonne tomate ou un bon chèvre, c'est beaucoup plus consommateur de main-d'œuvre et d'emploi que pour faire une tomate sous serre ou un chèvre industriel, premièrement. Et puis, deuxièmement, on est dans une démarche d'activité, de donner accès à une activité vis-à-vis de nos livreurs et de le faire de la manière la plus sociale et la plus portée vers l'avenir qui soit.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors Julia, on passe à notre rubrique carte blanche. On te l'avait annoncé pour que tu puisses y réfléchir un petit peu. C'est le moment de la carte blanche où tu peux toi-même attirer et pointer les projecteurs vers une initiative ou une personnalité qui te plairait de mettre en avant.
Ouais, alors l'initiative que j'ai choisie, ça s'appelle les Ravitailleurs. C'est une initiative qui vise à aider dans cette période de confinement les plus démunis. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sans domicile fixe, les migrants, en ce moment une vraie difficulté pour se nourrir, et plus particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, puisque les réseaux d'aide habituels ont pour beaucoup fermé, et les bénévoles, qui sont souvent des personnes âgées, forcément se confinent, et il n'y a plus de bénévoles. Donc il n'y a plus de dons de la part des restaurateurs et des distributeurs, et puisqu'ils ont fermé, il n'y a plus d'hôtels sociaux, il y a moins de bénévoles. Donc il y a vraiment un vrai enjeu là-dessus. Donc il faut prendre conscience. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde peut participer à son échelle grâce à ce collectif. Donc c'est un collectif de chefs, de restaurateurs, de distributeurs. On a été un des membres fondateurs avec Frishti et on donne des centaines de repas par semaine. Mais finalement, c'est un collectif indépendant qui vise à nourrir les plus démunis en rassemblant et mettant en commun toutes les bonnes volontés. Donc il y a des restaurateurs, des chefs qui peuvent reprendre du service pour pouvoir cuisiner. Il y a des distributeurs, ils sont très nombreux, à pouvoir donner des produits bruts. Et puis il y a enfin les associations qui doivent trouver cette nourriture et pour pouvoir ensuite la distribuer, et qui fait des appels aussi à du bénévolat. Donc voilà, deux manières de contribuer. Un, tout simplement, si vous êtes un acteur de la restauration, de la distribution, proposer ses produits ou ses services de cuisine. Ou deux, si tout simplement on est un particulier, c'est pas forcément très utile de cuisiner parce qu'il faut quand même un certain nombre, un certain volume. En revanche, ce qui peut être très facile, c'est de donner ses tickets restaurants. En fait, c'est des choses les tickets restaurants aujourd'hui continuent à être émis, mais pas forcément utilisés. Et on peut faire un super geste, tout simplement, en se rendant sur lesravitailleurs.org, en trouvant les contacts de où les envoyer. Ça va aller directement aux associations. Et ça permet de faire une super bonne action pour financer des repas pour tout simplement ceux qui ne peuvent pas en avoir en ce moment. Voilà.
Merveilleux, une initiative hyper généreuse. Et merci de l'avoir mis en lumière.
Donc on rappelle, c'est les ravitailleurs. Tu souhaitais aussi mettre un coup de projecteur, un autre, sur non pas une initiative, quoique, mais une entrepreneur. Je pense qu'on va passer au jingle. On me dit dans l'oreillette que la rubrique Sista est lancée. La rubrique Sista, elle part d'un principe simple, c'est qu'on est persuadé que le monde d'après sera plus mixte, plus inclusif. Et c'est un petit clin d'œil à un collectif dont tu peux peut-être nous parler, Olivier.
Oui, Sista, c'est aussi un jeu de mots sur les sisters, les sœurs en français. Un collectif qui a été lancé par des entrepreneuses, des start-upeuses à succès en France, et qui sont parties du constat qu'on avait trop peu de femmes dans cet écosystème qu'on appelle la French Tech, trop peu de femmes entrepreneurs, trop peu de femmes également parmi les collaborateurs des start-ups. Et c'est vrai aussi parfois même chez les investisseurs, les fonds de capital risque. Et donc pour féminiser cet écosystème, elles ont décidé de faire un peu pression, notamment sur les investisseurs,
pour vraiment mettre en avant également les dossiers qui sont portés par des femmes entrepreneurs, parce que très clairement, statistiquement, les femmes sont très largement sous-représentées. On le voit dans le baromètre France Digital EY annuel, que finalement, les start-upeurs ne sont que pour moins de 10% des start-upeuses. Donc, il s'agit de mettre en lumière ce problème pour travailler cette question du gender balance, comme on dit en anglais, donc de la mixité homme-femme.
Alors, cette initiative qui a été lancée par Céline Lazorte et Tatiana Jama, elle a été ensuite reprise et entendue, je crois, aussi par des hommes. Je sais pas si on les appelle les bros, il me semble que oui. Mais peut-être un petit mot de ta part, Julia, sur ton regard sur ce fait et sur le fait qu'on manque de femmes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et a fortiori dans la tech.
Oui, absolument. Et c'est une initiative absolument géniale que je soutiens fortement et surtout qui a mis en lumière par la statistique les différences, notamment de levée de fonds que pouvaient obtenir les projets portés par des équipes féminines. Et franchement, quand on commence à mettre des chiffres et une objectivité sur ce constat, eh ben, c'est assez effroyable à constater. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas accès à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat avec levée de fonds. Mais au-delà de juste, il faut que ça change pour les femmes et pour un monde plus égalitaire, c'est aussi il faut que ça change pour le monde. On le sait très bien, quand il y a des projets qui sont portés par des équipes mixtes ou par des équipes féminines, quand les femmes apportent ce qu'elles ont à apporter au projet avec leurs idées, elles vont porter différents types de projets. Et cette mixité est absolument essentielle pour faire avancer la société et construire le monde du futur. On ne peut pas imaginer un monde du futur qui se passe de projets menés par des femmes. C'est ultra, ultra important et donc c'est important pour tout le monde. C'est bien aussi du coup qu'il y ait des hommes qui rejoignent la cause parce qu'il y en a marre des causes d'égalité ou de femmes qui soient portées que par des femmes. On est tous là pour construire le monde de demain et le monde de demain, il doit être égalitaire. Parce que de la mixité se nourrissent les plus belles innovations. Voilà.
Et on t'a proposé du coup de nous citer une entrepreneur que tu aimerais mettre en avant dans ton podcast. Il s'agit de Camille Le Gall, qui est la cofondatrice de Fairly Made. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ton choix? Et peut-être poser une question qu'on lui posera bien évidemment dans la foulée de ton podcast.
Ouais, absolument. Donc effectivement, j'ai choisi Camille Le Gall, qui est fondatrice de Fairly Made. Fairly Made, c'est un label et un réseau de certification d'usines pour permettre aux marques de mode de pouvoir produire de manière plus responsable. Et de tracer l'intégralité de leur production et de mesurer, on va dire, leur impact social. On sait que l'industrie de la mode, c'est une des industries les plus polluantes du monde, et l'idée, c'est de faire changer ça tout en s'adaptant aux contraintes des marques. Donc, je trouve son initiative absolument extraordinaire. Elle travaille déjà avec les plus grandes marques de mode et maisons de luxe, et ça fait à peine un an et demi qu'elle a lancé ce label, cette entreprise, et qui rencontre vraiment un très grand succès. Et pourquoi j'ai choisi Camille au-delà de son entreprise en particulier, c'est que pour moi, elle représente tout ce que j'aime chez les entrepreneurs engagés. C'est quelqu'un qui comprend que, enfin voilà, qui veut faire bouger les lignes d'une industrie qui a du mal à bouger et qui le fait en comprenant parfaitement les contraintes aussi que peuvent avoir les marques de mode, qui peuvent pas faire exploser par exemple leurs coûts de production et donc qui trouvent des manières de concilier objectif business et évidemment concilier responsabilité écologique. Voilà, son projet est assez extraordinaire et c'est quelqu'un de très ambitieux, très cool, qui avance avec la tête froide, beaucoup de confiance, de bienveillance, de sourire. Voilà, c'est une entrepreneur que j'aime beaucoup et que je souhaitais mettre en lumière.
Et du coup, quelle question tu aimerais lui poser?
La question que j'aimerais lui poser, c'est peut-être qu'elle nous parle de la marque avec laquelle elle a travaillé qui a été la plus déterminante dans la progression de Fairly Made. Quel est finalement le projet dont elle est le plus fière et qui a pu lui permettre de lui ouvrir d'autres portes?
Très bien. Eh bien, écoute, nous allons lui poser la question en ton nom. Et il nous reste à te remercier, Julia. Donc, Julia Bijaoui, tu es cofondatrice de Frishti, une des plus belles startups, voire scale-up françaises. On a apprécié de passer ce moment avec toi. Je crois qu'il a été inspirant pour nos auditeurs.
Je pense que j'aimerais aussi qu'on remercie nos partenaires, notamment les partenaires médias, Madines, ainsi que La Tribune, et France Digital, l'association aux 2000 startups qui rassemble les entrepreneurs et les start-upeurs français pour développer l'économie en France, et notamment avec une réflexion très forte aujourd'hui autour de l'impact positif. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé en cette période de crise sanitaire et de confinement. En effet, le podcast 40 nuances de Next a été revisité un peu au vu des circonstances. Donc, on est rentré évidemment dans des modalités de télépodcast, de télétravail. Donc, les conditions d'écoute n'étaient pas forcément toujours idéales. Les conditions techniques sont un peu plus limitées. Mais ça nous permet de passer des moments un peu différents tout en restant confinés et de trouver des moments d'inspiration. Et le cas échéant, on sera ravis de revenir avec toi aussi, Julia, sur ton parcours d'ici quelques semaines, si tu veux bien. Après le confinement, on pourra s'étendre aussi sur le monde d'après et comment tous nos business models auront évolué à ce moment-là.
Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation.
Julia, un grand merci encore pour ce partage d'expérience. Olivier, je te propose donc de conclure par l'interview de Camille Le Gall, propos recueillis par mon associé Solène Etienne.
Bonjour Camille.
Bonjour Solène.
Tu es la fondatrice de Fairly Made et aujourd'hui tu es l'invitée entrepreneur au féminin de Julia Bijaoui dans son podcast 40 nuances de Next. Camille, bonjour et bienvenue dans ce podcast.
Merci Solène, bonjour.
Alors Camille, si tu devais nous pitcher Fairly Made en un tweet, ça donnerait quoi ?
Alors Fairly Made, c'est un label de mode éco-responsable qui aide les marques à devenir plus engagées. Donc, pour ce faire, on a développé deux services. Un premier, qui est celui du sourcing et de la confection, qui leur permet d'avoir, grâce à nous, une collection donc traçable et engagée avec des matières à faible impact sur l'environnement. Et un deuxième service, qui est de l'évaluation. Et donc là, on ouvre aujourd'hui notre protocole Fairly Made à toutes les marques qui veulent évaluer justement leur collection. Et donc sur une capsule ou une collection classique, évaluer l'impact environnemental, social et la traçabilité des produits qu'ils mettent en marché.
Alors Camille, des marques engagées, mesurer l'impact environnemental, sociétal, c'est très monde d'après tout ça.
Oui, alors c'est le monde d'après. Nous, c'était notre présent avec Laure, donc Betch, mon associé, avec qui très tôt, on a voulu monter Fairly Made au travers de ses valeurs qui sont la bienveillance, la transparence et la rigueur. On a pressenti que ça allait arriver au niveau donc des marques, au niveau de la mode. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. On a lancé Fairly Made en 2018. Et aujourd'hui, ce dont on est très fiers, c'est qu'il y a un grand nombre de marques qui font appel à nous pour justement avancer vers une mode plus engagée.
Justement, Julia avait une question sur les marques. Julia se demandait quelle était la marque avec laquelle tu avais travaillé, qui avait été déterminante dans la progression de Fairly Made, un projet dont tu es super fière et qui t'a permis ensuite d'ouvrir d'autres portes.
Oui, alors je pense spontanément à Les Petits Hauts, une marque de prêt-à-porter féminin et avec qui on a eu une rencontre coup de cœur avec la fondatrice Vanessa. Depuis donc l'hiver dernier, il est possible de trouver en boutique des collections co-créées des Petits Hauts It's Fairly Made, et toutes ces collections sont faites à partir de fibres à faible impact sur l'environnement, donc on retrouve du coton biologique, des matières recyclées. Et toutes celles-ci sont fabriquées avec un protocole engagé, donc depuis le filateur, tisseur, usine de confection.
Et donc en fait, c'est devenu un cas d'école pour toi et ça t'a ouvert d'autres portes ?
Complètement. C'est aujourd'hui aussi une grosse visibilité puisque les marques nous contactent de plus en plus nombreuses pour avancer vers justement une mode plus engagée. Mmh. On va débuter en mai prochain avec Etam. Des marques comme les Galeries Lafayette aussi, qui étaient nos premiers clients. Et ce, voilà, pour des marques aussi bien accessibles que jusqu'à des marques de luxe. Donc, on est hyper optimiste par rapport à ce qui va se passer par la suite. Les marques sont à l'écoute et ça va dans le bon sens.
Et donc, du coup, pour toi, Camille, c'est bientôt le Next 40 ?
Eh bien, d'ici 2 ou 3 ans.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Camille.
Merci, Solène.
40 nuances de Next.
Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.